Podcast by Tendance Ouest. Fait de vie, Philippe Bertin.
Bonjour. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui m'a été inspirée par un petit entrefilet publié dans la presse locale à Falaise. Nous sommes dans le Calvados, au sud de Caen, à une trentaine de kilomètres de la capitale régionale de Basse-Normandie. Falaise est une cité bien tranquille, connue pour son histoire, rattachée à celle de Guillaume le Conquérant, qui fut, comme chacun le sait peut-être, duc de Normandie et roi d'Angleterre. Le château qu'édifia son fils Henri Ier de Beauclerc trône encore au milieu de la ville. C'est ici que Guillaume le Conquérant a vu le jour.
Fait de vie, Philippe Bertin.
À Falaise, dans le journal local, ce petit entrefilet à la rubrique des faits divers, on disait autrefois des chiens écrasés. Il est question d'une découverte curieuse et particulièrement macabre sur le parking d'un supermarché à l'écart du centre-ville. Les journaux rapportent qu'un homme aurait été retrouvé dans son camping-car qui était apparemment stationné au même endroit depuis plusieurs jours. Qui est donc cet inconnu du parking dont on vient de retrouver le corps? Dans quelles circonstances est-il décédé? Pas un mot là-dessus, pas une ligne, rien. Les journalistes des médias locaux ne sont visiblement pas très curieux. Cette mort est somme toute très banale, si l'on peut dire, et si l'on en croit ce qui est écrit. On n'attache finalement que très peu d'importance au décès d'un homme retrouvé tout seul dans son camping-car, sans personne autour et dans ce décor triste à pleurer. Une zone commerciale comme il en existe un peu partout en France. Des magasins de bricolage, des dépôts de matériaux, un McDo et une grande enseigne de supermarché. Et au milieu de tout cela, donc, ce camping-car avec à l'intérieur son propriétaire qui a perdu la vie. L'histoire, aussi banale qu'elle puisse apparaître, est tout de même très édifiante. Comment a-t-on pu passer devant ce véhicule qui restait stationné au même endroit depuis plusieurs jours sans s'inquiéter de ce qu'il pouvait bien y être survenu? Je m'en tiens pour l'instant à ce qui est écrit dans les journaux, j'ouvre les guillemets. La cellule d'identification criminelle de la gendarmerie a procédé aux investigations sur place et selon nos informations, le véhicule aurait été garé à cet emplacement depuis 3 semaines. Fermez les guillemets, voilà, on n'en saura pas plus, circulez, il n'y a rien à voir. En fait, si, il y a beaucoup à voir et surtout beaucoup à raconter. Ce fait divers, à y regarder de plus près, n'a vraiment rien de banal et cache au fond un parcours de vie sensible et singulier. Je vais vous raconter pourquoi et comment. Ce camping-car retrouvé sur un parking de supermarché fut en effet la demeure d'un homme dont l'histoire est à bien des égards extraordinaire, hors des sentiers battus, et vous allez comprendre pourquoi.
Podcast by Tendance Ouest.
Me voilà rendu à l'endroit même où le camping-car a été retrouvé le 10 octobre 2022. C'est un lundi. Ce jour-là, l'actualité suit son cours. Le procès du crash aérien du vol Rio-Paris vient de s'ouvrir. Des frappes russes dont on raconte qu'elles sont massives ont touché plusieurs grandes villes d'Ukraine. L'Assemblée nationale commence l'examen du projet de budget 2023 pour la France et dans les Ardennes, une nouvelle campagne de fouilles vient de débuter pour tenter de retrouver le corps de la petite Estelle Mouzin, victime du tueur en série Michel Fourniret. Ainsi va la vie et sur ce parking de Falaise, c'est triste à mourir. Je ne vois pas grand monde dans cette zone d'activité pompeusement nommée Expansia. Il y a un petit groupe de jeunes qui discutent autour d'une mobilette. Ils me disent qu'ils ont bien entendu parler de cette découverte macabre, mais ils n'en savent guère plus. Le parking où a été retrouvé le véhicule est coincé entre un magasin de bricolage, Point P, et une entreprise de paysagistes dont les grilles sont fermées à l'heure où je me présente sur place. Et sur place, personne pour me parler de cette étrange affaire. Les gendarmes ne veulent pas en dire plus que ce que l'on s'en sait déjà. Et d'ailleurs, pourquoi vous intéressez-vous à cela, me dit la gendarme qui accepte de répondre à mes questions. Elle ne me le dit pas comme ça, mais je le sens bien au son de sa voix. Elle est très agacée. Mêlez-vous de vos affaires. Le maire de Falaise, Hervé Monori, est plus prolixe et surtout plus accueillant quand je le sollicite, mais lui non plus n'en sait guère davantage. La seule chose qu'il me confirme est que le corps du pauvre homme, dont on ne sait toujours pas l'identité, a été transféré, comme il se doit, à la maison funéraire de la ville. Je me rends sur place dans l'espoir d'y rencontrer peut-être la famille du défunt, mais il n'y a personne sauf la responsable du lieu qui n'est pas, dit-elle, habilitée à me parler et à me donner le contact d'éventuels proches de cet inconnu du parking. Quelque temps plus tard, la procureure de la République de Caen, en charge de l'affaire, me confirmera que le décès n'a pas été causé par un tiers. Ce sont ses termes. Autrement dit, l'homme est mort d'une mort naturelle. J'apprends qu'il avait 65 ans, qu'il est né en 1957 et qu'il est originaire du nord de la France, de la région d'Amiens. Je veux en savoir plus, savoir qui il était, d'où il vient, pourquoi il est arrivé sur ce parking à l'écart de la ville et quel fut son parcours avant de venir y stationner. Je veux au fond lui redonner un visage, une vie, une identité. J'aimerais savoir ce qui peut bien se cacher derrière ce fait divers, somme toute banal, je le répète, et qui n'a valu dans les journaux assez peu curieux que quelques lignes au milieu de beaucoup d'autres faits.
De vie, Philippe Bertin.
En réalité, l'histoire de cet inconnu, c'est celle d'un homme qui, pendant plusieurs années de sa vie, a bourlingué sur les routes de France au volant de son camping-car un peu usé. Au fil de mes recherches, je découvre qui il est. Il s'appelle Daniel Radi, du moins se faisait appeler comme cela. Radi était le surnom qu'il s'était choisi pour faire la route. Et pourquoi Radi ? Je vais l'apprendre en cherchant ce que fut son parcours original. Il avait choisi ce pseudonyme quand, plus jeune, Daniel participait avec d'autres copains à des compétitions de stock-car au sein de l'écurie baptisée les Radis Noirs, en opposition avec une autre écurie baptisée, celle-là, les Radis Roses, et dans laquelle figurait comme compétiteur un certain Michel Colucci. Oui, vous avez bien entendu. Coluche, passionné de sport automobile, faisait lui aussi du stock-car et c'est ainsi que lui et Daniel, le fameux Dan, retrouvé mort sur le parking du supermarché de Falaise, devinrent copains. Voilà ce que j'apprends au fil de mes recherches. J'apprends aussi beaucoup d'autres choses qui témoignent d'une vie cabossée, pas toujours facile et assez singulière. Daniel Radi, qui se faisait donc appeler Dan par tous ceux et toutes celles qui le croisaient sur le bord de la route ou sur les parkings lorsqu'il stationnait, comme lui, leur camping-car, avait fait une partie de sa vie professionnelle au Canada et plus précisément au Québec. Il travaillait dans l'audiovisuel pour Montréal TV, effectuait outre-Atlantique de nombreux reportages. J'ai retrouvé la page Facebook qu'il alimentait en ce temps-là quand il était plus jeune. On le voit caméra au point effectuant des prises de vue. On le voit aussi soutenir la cause de journalistes, reporters de guerre, retenus en otage. Dan racontera plus tard qu'il fut lui aussi un temps reporter, photographe dans des pays en guerre et dans les vidéos qu'il postait régulièrement sur les réseaux sociaux, et il refusait cependant d'en parler plus en détail. On sait seulement qu'il dit avoir été envoyé par des agences de presse dans des lieux difficiles, notamment au Liban et en Afghanistan. Après cette carrière de photographe, Dan se consacra plus spécifiquement à la vidéo. Comment cette vie de photographe, de vidéaste, a-t-elle pu basculer de la sorte? Au début des années 2020, on le retrouve en effet en France, au volant de son camping-car. Il l'a acheté 5 500 €. Le véhicule, pas de première fraîcheur, affichait à l'époque 140 000 km au compteur. Auparavant, Dan roulait au volant d'un ancien Trafic de la Poste qu'il avait aménagé en maison d'habitation. Son fils, Yanel, était avec lui à cette époque, lui aussi sur les routes, avec son papa. Régulièrement, Dan Radi donnait de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Et c'est ainsi que toute une communauté de 100 domiciles fixes suivait ses périples et ses galères de nomade, un nomade qu'il était devenu au fil du temps.
Fait de vie. Philippe Bertin.
On voit au fil des vidéos qu'il a pu poster, on le voit se transformer. Son visage est en train de changer. La dernière vidéo postée date de la fin septembre, du 28 septembre exactement, quelques jours visiblement, avant qu'on ne découvre son corps inerte. Il dit qu'il va bien, rassure tout le monde sur son état de santé. Dan, en fait, se savait malade. Certains s'inquiétaient pour lui. Dans cette vidéo que j'ai retrouvée, Dan Radi s'est laissé pousser les cheveux qu'il a blancs. Son visage s'est creusé, il est très pâle. C'est la dernière vidéo qu'on connaisse de lui. Nous sommes donc à la fin septembre à Falaise, où il vient d'arriver. On le retrouvera mort dans son camping-car le 10 octobre au matin. J'ai retrouvé le paysagiste qui a donné l'alerte. Il s'appelle Hervé Morel. C'est l'un de ses salariés qui a découvert le corps de Dan Radi allongé à l'intérieur de son camping-car. Hervé Morel a accepté de me raconter comment tout cela s'est déroulé. Le camping-car était stationné juste en face de l'entrée de notre entreprise, me dit Hervé. Cela faisait déjà quelque temps qu'il était là et je m'en étonnais d'autant qu'aucun détritus, aucune poubelle n'était visible autour. Il y a même des gens qui ont pique-niqué tout à côté pendant cette période. Je continue la conversation avec Hervé Morel. Il m'explique que la zone Expansia, où a été retrouvé Daniel Radi, est connue des voyageurs et des routiers qui stationnent à cet endroit pour y faire escale une heure ou deux. Autrefois, me raconte Hervé, il y avait un grand parking, mais il a été supprimé car squatté régulièrement par les gens du voyage. On l'a remplacé par des petites places de stationnement et c'est là que Dan Radi avait trouvé refuge. Hervé, le paysagiste, poursuit son récit. Quand mon collaborateur m'a dit qu'il avait vu un homme allongé à l'intérieur du véhicule, je suis allé voir aussitôt et j'ai vite compris quand j'ai découvert la posture cadavérique du monsieur. J'ai compris qu'il n'était pas en train de piquer un roupillon. Il avait les bras au-dessus de sa tête comme tournés vers le ciel et j'ai aussitôt appelé la gendarmerie pour qu'il vienne voir. On connaît la suite. Le corps de Daniel Radi a été transféré à la maison funéraire de Falaise. La communauté des nomades de la route, dont il faisait partie, a été vite informée du décès de Dan. Parmi eux, il y a quelqu'un qui le connaissait bien pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises et s'être lié d'amitié avec lui. Elle s'appelle Annabelle, conduit elle aussi un camping-car dans lequel elle vit, fait la route et se fait appeler Annabelle la coccinelle. Comme Dan Rady, elle poste régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux pour raconter sa vie de sans domicile fixe à bord de son véhicule aménagé. Annabelle dit de Dan qu'il était un dur à cuire qui refusait de se faire soigner autrement que par l'homéopathie et de l'eau sucrée. Elle disait aussi qu'il restait toujours joyeux et qu'en dépit de toutes ses galères, il s'en sortait toujours. Dan raconte à Annabelle la coccinelle avait au-dessus de la tête, je cite, « une bonne étoile et moi, dit-elle, je le voyais vivre jusqu'à 100 ans ». L'ancien copain de Coluche du temps des stock-cars s'en est allé tout seul sur un parking de supermarché à l'âge de 65 ans. Il avait pour seule compagne une petite chatte qu'il avait prénommée Mimine. Quand il est parti, le médecin arrivé sur les lieux avec les gendarmes a recueilli le petit animal qu'il a finalement adopté. Mimine, la chatte de Dan Rady, est désormais entre de bonnes mains. C'est la fin de cette histoire qui n'a occupé qu'un tout petit entrefilet dans le journal local, l'histoire pourtant incroyable d'un homme mort un jour sur un parking de supermarché. À très bientôt.
Podcast by Tendance Ouest.